Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de la fréquence de la paix. Un autre numéro d'Economia en 2024. Nous sommes heureux et nous parlons toujours d'économie. Aujourd'hui, nous continuerons à découvrir des notions économiques avec Faustin Onozon. Nous parlons encore de déflation. Oui, on l'a défini, mais la suite de cette définition aujourd'hui dans ce numéro avec notre consultant habituel dans la rubrique que vous connaissez, Regard sur la gestion de l'économie. Bien avant le lexique économique pour l'explication de quelques termes que vous entendrez dans cette émission. Et puis, pour terminer Economia de ce jour, vous le savez, le rendez-vous, c'est les tendances de la bourse avec Quaobris. Voici donc les différentes articulations de ce tout numéro d'Economia sur votre fréquence préférée, la radio de la paix. Merci de nous suivre et bienvenue à tous.
Le lexique économique. Le lexique économique.
La déflation.
La déflation est un gain de pouvoir d'achat de la monnaie. On peut acheter donc plus de biens et de services avec la même quantité de monnaie. Et cela se traduit par une baisse durable du niveau général des prix. Et ce phénomène de déflation ne doit pas être confondu aussi avec la désinflation. Oui, la désinflation qui est un ralentissement de l'inflation, soit une diminution du taux d'inflation. Et puis la déflation est une conséquence normale de l'évolution des structures économiques quand les marchés sont saturés à la suite donc d'innovations qui permettent des gains de productivité.
Les taux directeurs.
Les taux directeurs, on parle de banque, sont les taux d'intérêt au jour le jour fixés par la banque centrale, notamment la banque centrale d'un pays ou d'une union monétaire. Dans le cas par exemple de l'UEMOA, c'est la BCAO, qui permettent donc ces taux directeurs de réguler l'activité économique.
Le commerce mondial ou international.
Le commerce mondial ou international, ce sont les échanges de biens et services dans le monde. Le commerce international renvoie également à l'organisation des échanges internationaux entre deux ou plusieurs espaces économiques. Ça peut être des modes de règlement des échanges, des mesures douanières, la gestion des risques de change et bien d'autres mesures.
Regard sur la gestion économique nationale.
Voilà, mes auditeurs, merci. Toujours fidèles à votre rendez-vous. Monsieur Onozon, toujours au rendez-vous aussi pour nous informer. En tout cas, on en apprend beaucoup. Monsieur Onozon, bonjour.
Bonjour, monsieur Comé.
On parlait d'inflation. C'est le sujet que nous avons choisi d'expliquer. Vous avez, pour rappel, parlé de la déflation comme le contraire de l'inflation.
Tout à fait.
Donc, nous sommes, dans le cas de la déflation, dans une situation négative où on commence à avoir des pertes. C'est cela.
Tout à fait.
Alors, quelles sont les causes, justement, de cette situation-là, la déflation?
Je l'ai dit, lorsqu'on prend des dispositions pratiques sur le plan monétaire, et il faut dire que ces dispositions pratiques qu'on prend, c'est une gestion artificielle de la monnaie. Parce que celle-là ne provient pas des transactions financières avec l'étranger. Les transactions financières avec l'étranger, c'est quoi? C'est lorsque vous vendez votre café, votre cacao, lorsque vous importez aussi, des produits, du lait, du beurre, même des voitures et autres, ce sont des transactions financières qui sont normales. Mais quand on dit que pour des questions de relance économique et financière, il faut que la banque centrale dégage une tranche supplémentaire d'argent, c'est-à-dire augmente la masse monétaire en circulation pour libérer le crédit et l'investissement de manière à augmenter le niveau du PIB. Mais il va sans dire que cette procédure-là, c'est une procédure apparemment normale, mais en réalité qui est anormale.
Concrètement, voilà. La banque crée de la monnaie, ce qui ne se base pas sur des transactions entre individus, parce qu'on achète et puis on vend. C'est ce qui génère de l'argent. Mais exactement. Ici, pour sauver l'économie en fonction des situations, la banque injecte de l'argent.
De l'argent.
C'est cela.
Voilà.
Donc, par cette action, ça peut créer des problèmes plus
tard. Bien sûr. Parce que cet argent que la banque injecte, en réalité, n'a pas de contrepartie au niveau international. Il n'y a pas de devise. Et chaque PIB qui est créé, chaque variation positive de la production nationale entraîne, ce qui est d'ailleurs cohérent, une variation aussi positive des devises. Ça peut être du dollar, ça peut être du yen japonais, ça peut être, comme
simplement
on le dit,
des monnaies étrangères. En fonction du pays où on se trouve.
Parce que lorsque vous vendez par exemple votre cacao aux États-Unis, vous serez payé certainement en dollars. Et lorsque voulez faire aussi une importation émanant des États-Unis, mais vous allez payer les États-Unis en dollars. Donc si votre monnaie n'a pas cette garantie-là, mais cela peut avoir des répercussions assez graves sur sa gestion. Et c'est pourquoi, quand on crée une masse monétaire comme celle-là, mais il faut toujours réorienter la politique du crédit. C'est-à-dire faire en sorte que ceux qui viennent pour s'endetter, pour que l'économie soit relancée, mettez beaucoup plus l'accent sur ceux qui exportent. Voilà. Parce que si vous mettez l'accent essentiellement sur ceux qui importent, mais à un moment donné, ils auront besoin des devises. Mais ceux qui exportent, n'ayant pas exporté suffisamment, ils n'auront pas des devises qu'il leur faudra pour pouvoir agencer leurs opérations d'importation. Et justement, ça va entraîner encore des pénuries et ça va relever le niveau de l'inflation. Et voilà un peu comment est-ce que l'inflation arrive. Et d'abord, il y a une somme d'argent qui vient s'introduire dans la masse monétaire en circulation, qui n'a aucune garantie extérieure. Et puis en plus de cela, s'il y a une mauvaise orientation du crédit, il va sans dire que cette somme d'argent n'aura pas la garantie escomptée et cela peut entraîner des pénuries en matière d'importation des produits. Voilà comment vient l'inflation.
Mais alors, quand la Chine, le Japon et d'autres pays qui sont dans cette situation de déflation vivent cette situation, quel pourrait être l'impact sur nous? On va se dire, bon, ça les concerne. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit voir la chose?
Ah non, de la même manière que l'inflation est très souvent une inflation importée, parce que de l'autre côté, s'il y a une augmentation du niveau général des prix, mais ils ne vont pas forcément faire du dumping. C'est à ces prix-là qu'ils vont nous vendre les produits. C'est donc ça. Les produits qu'on va avoir aussi seront d'un niveau encore nettement plus élevé. Et ça va entraîner la même inflation, sinon plus, par rapport à ces pays-là qui ont fabriqué ces produits. Mais la déflation, c'est pratiquement la même chose. Si ces pays-là ont des difficultés et que, justement... Il faut dire que la répercussion de ces difficultés-là va se faire sur les produits de qualité qu'ils vont nous vendre. Voilà, parce qu'il faut, quelque part, qu'ils aient des fonds supplémentaires pour compenser les pertes qu'ils réalisent au niveau de leur pays. Mais c'est nous qui allons payer cette déflation. Voilà un peu comment ça se passe. Parce que les produits deviendront nettement plus chers. Voilà, c'est au sein du pays, au niveau du pays, à l'intérieur du pays, que la déflation entraîne une baisse drastique des prix de ces produits-là. Et on réalise des pertes. Mais à l'étranger... Ils n'y vendent pas à perte. Ils font tout pour pouvoir rattraper tout ce retard en matière de gestion de leurs transactions financières.
Alors, comme pour le cas africain, on dépend de ces pays-là, on va acheter beaucoup de produits manufacturés chez eux. On parle par exemple de la Chine. Hein. Donc, ces transactions-là ont de l'impact sur nous immédiatement.
Ah oui.
De notre côté, nous, on aura maintenant l'inflation.
Mais oui.
C'est cela. La déflation peut occasionner de l'inflation.
C'est une forme d'inflation importée. Parce que ne dites pas que parce qu'ils vendent moins cher. Et aussi, au niveau international, ils vont vendre moins cher. Ah non, ce n'est pas ça. Tout dépendra de la qualité du produit. Et ils sauront comment rétribuer cette qualité-là. Voilà. C'est vrai que sur le plan intérieur, il n'y a pas que des Chinois qui viennent acheter ces produits. Mais sur le plan extérieur, une fois acheté, mais il va falloir sortir avec ces produits. Mais ils vont vous donner l'impôt qu'il vous faudra pour qu'ils puissent rattraper leur retard en matière financière.
Alors, mais justement, quand un pays est dans cette situation, quelles sont les politiques pour essayer de relancer justement cette situation de déflation-là?
Comme on le sait très bien, la situation de déflation, je l'ai dit que c'est le contraire de l'inflation. Et ça veut dire que les prix des produits ont baissé d'une manière tout à fait drastique. Et dans ce cas précis, il faut mener une politique qui pourrait vous permettre d'augmenter le niveau général des prix. Et quelle est la politique qu'il faut mener? C'est augmenter les taux d'intérêt au niveau de la banque centrale. Et donc, lorsqu'on augmente ces taux d'intérêt, le loyer de l'argent, les gens vont beaucoup plus courir vers l'épargne. Voilà, plutôt que d'aller vers l'investissement. Voilà. En faisant cela va permettre, par exemple, aux uns et aux autres, ça c'est dans un premier temps, d'augmenter le niveau général des prix. Et lorsqu'on augmente le taux d'inflation, c'est que les prix vont commencer certainement à connaître une baisse drastique.
Il y a la situation aussi de ces opérateurs économiques. Hein. Lorsque l'argent devient plus cher en termes d'emprunt, évidemment, ils en ont besoin pour créer donc des produits manufacturés. Hein, je veux parler des opérateurs économiques. Lorsque le crédit devient plus cher, est-ce que ça ne peut pas jouer sur les produits que ces entreprises vendent? Lorsque la banque centrale augmente son taux, je suis un opérateur économique, je suis obligé d'aller toujours emprunter. Si j'emprunte de l'argent un peu plus cher et que je dois fabriquer des produits, ça devient plus cher. Si je les vends, ça devient plus cher. Est-ce indirectement, l'inflation n'est pas encore là.
Non, effectivement, vous allez devenir moins compétitif. Ça, je ne vous le fais pas dire. Lorsqu'on augmente le loyer de l'argent, ça veut dire que l'investissement devient un peu plus cher. Donc, vous allez vendre un peu plus cher que les autres. Et sur le plan national, je dirais même aussi international, vos produits deviennent moins compétitifs. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on fait cette politique-là? On préfère que ces produits-là deviennent moins compétitifs pour un certain temps plutôt que d'assister à un niveau général des prix qui grimpe chaque jour. Mm-hmm. Et ça sape un peu le pouvoir d'achat des individus. Ça veut dire que le salaire que vous avez aujourd'hui, vous ne l'aurez pas demain. Si vous avez peut-être 100 000 francs comme salaire, avec des taux d'inflation de 10%, c'est que votre salaire diminue de 10%. Donc, ce n'est pas fait pour gérer aussi au mieux le PIB. Alors, ce qu'il faut faire en pareille occasion, c'est faire en sorte qu'on arrive à arrêter cette inflation galopante pour permettre aux uns et aux autres d'avoir un pouvoir d'achat assez cohérent. Voilà un peu la première des choses. Mais on sait que, parce qu'on a d'abord libéré le crédit, donc on a atteint un niveau certainement optimal en matière d'investissement. Et il ne faudrait pas saper aussi l'investissement. Et si les taux d'intérêt continuent de grimper, c'est-à-dire que les individus que nous sommes, nous allons payer un peu plus cher, et ça va tuer, comme je le disais tantôt, notre pouvoir d'achat. Donc il est mieux de revenir sur un taux optimal, notamment dans les pays de l'UE, c'est un taux de 2%, plutôt que de rester dans une hyperinflation.
Merci à vous, M. Onozon, pour ces éclairages. Pour terminer, une petite question. Est-ce que des pays africains sont dans une situation de déflation?
Non, pas encore. Je ne connais pas pour le moment des pays africains qui sont dans cette situation de déflation. Ce que j'observe cependant, c'est plutôt une situation d'inflation qui est tout à fait alarmante. Mmh. Et ces pays africains cherchent d'ailleurs à redescendre. À faire en sorte qu'elle puisse être à un niveau optimal des taux d'inflation.
En tout cas, on souhaite que ces pays-là n'arrivent pas à ces situations. Hein. Mais bon, tout cela, des experts comme vous essaient de conseiller ces États-là pour mieux gérer l'économie. C'est en tout cas l'objectif. Vous permettez-vous aussi aux auditeurs de mieux comprendre les mécanismes économiques au niveau du monde, au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région. C'était avec M. Fosson Onozon justement pour nous éclairer sur cette question. Merci à vous, M. Fosson Onozon.
Merci, M. Koumi.
Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour le même espace dans Economia.
Tendance de la bourse.
Les tendances de la bourse, c'est donc avec M. Kouaobris pour parler justement d'un sujet. On retourne donc à la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières. On a décidé avec donc nos consultants de nous intéresser à cette structure parce qu'ils sont représentés plusieurs entreprises. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ces entreprises qui font que la BRVM, qui concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, plusieurs pays de l'UEMOA donc, existe. Alors M. Kouao, bonjour.
Bonjour M. Koumi, bonjour à tous les auditeurs.
Alors pour situer en tout cas nos auditeurs sur l'importance de ce sujet, la BRVM, on l'a dit dans une de nos émissions, ce n'est pas une structure seulement nationale, c'est une structure sous-régionale.
Oui, effectivement, c'est une bourse sous-régionale à l'instar des autres institutions qu'on a. Elle s'inscrit dans les institutions sous-régionales comme l'UEMOA, la Cour de justice et ainsi de suite. On a beaucoup d'instruments comme ça sous-régionaux pour notre intégration. Donc, dans ce cadre-là, on peut retrouver à la BRVM des entreprises ivoiriennes ou des entreprises burkinabé, nigérian et autres. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va essayer de présenter un peu quelques entreprises pour que vous compreniez qu'on parle de bourse. Il s'agit vraiment d'entreprises que vous connaissez, qui sont dans des pays dans lesquels vous êtes. Et avec ça, nous estimons que ça peut vous permettre de passer un cap. En tout cas, le cap de la peur, de l'inconnu, là, qu'on va citer les noms, vous verrez que c'est des entreprises tout à fait connues.
Justement, on va rappeler, avant de présenter ces entreprises, pourquoi certaines entreprises, à un certain moment, se retrouvent dans ce lieu-là. Pourquoi une entreprise juge nécessaire de se retrouver en bourse?
Bon, comme on a dit, il y a au cœur de cette question-là le besoin en financement, là. Recherche de capitaux. Donc, une entreprise entre en bourse ou un État émet des obligations en bourse pour lever des fonds. Et cela permet de financer des projets de développement et par la suite, les investisseurs récoltent une partie des profits réalisés par cette entreprise-là. Donc, ça, c'est la raison fondamentale.
Alors, à la BRVM, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, qui a son siège à Abidjan, se trouve combien d'entreprises?
Il y a 45 entreprises cotées à la BRVM.
On peut dire que c'est peu. Pour 8 pays, 45 entreprises.
C'est quoi l'explication, vous, qui vous intéressez à cette actualité?
Bon, l'explication trouve son origine en partie dans l'émission qu'on anime. Hein. L'absence de culture boursière est partagée par les populations et par les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est juste des gens qui viennent de la population. Donc, si quelqu'un ne connaît pas la bourse en tant qu'épargnant, il ne la connaîtra pas plus en tant qu'entrepreneur. Ce sont des instruments qui sont, je dirais pas nouveaux, puisqu'ils existent quand même depuis 98, mais nouveaux pour les populations. Donc, on doit expliquer aux gens ce que c'est, ce qu'on y fait, ce qu'on y gagne, pour qu'en tant qu'épargnant, ils placent leur argent, ou en tant qu'entrepreneur, ils cotent leurs entreprises.
Alors, quelles sont les catégories d'entreprises, justement, qu'on peut trouver à la BRVM?
Bon, on en avait parlé aussi déjà, il s'agit des grandes entreprises actuellement. Il y a un compartiment qu'on a ouvert, le troisième compartiment, qui va abriter dans les années à venir les PME, PMI, mais actuellement, toutes les entreprises que vous trouvez font partie de ce qu'on appelle les grandes entreprises.
Grandes entreprises en termes de capacité?
Les grandes entreprises sont classées en fonction de plusieurs critères. La capitalisation boursière notamment, le nombre d'années de comptes certifiés et le taux de marge sur chiffre d'affaires. Donc on a deux compartiments pour les grandes entreprises. Le premier compartiment comprend les entreprises qui ont une capitalisation de plus de 500 millions et un taux de marge net sur chiffre d'affaires de 3% sur les trois dernières années, avec 5 années de comptes certifiés. Donc c'est sur ces critères-là que ces entreprises-là présentent des dossiers qui sont validés par le régulateur. À côté de ces grandes entreprises-là, on peut dire qu'il y en a deux moyennes, dont une capitalisation boursière de 200 millions, deux années de comptes certifiés. Et ces deux groupes-là forment les entreprises qu'on trouve actuellement à la BRVM. Il y a un troisième compartiment qui a été créé, qui est le compartiment des PME, PMI, qui lui a d'autres conditions.
Vous notiez aussi l'hésitation de certaines entreprises à aller à la bourse. Justement, quels sont les avantages d'être présent?
Bon, on a déjà la notoriété, on a aussi le fait d'acquérir des financements à des coûts qui sont acceptables pour l'entreprise. Comme on l'a dit dans nos précédentes émissions, en bourse, c'est l'entreprise ou c'est l'État qui définit les conditions de son financement. Donc, en termes de coûts, en termes de durée, en termes de mode de paiement, c'est l'entité qui lève les fonds, qui dit voilà comment je peux rembourser, voilà sur quelle période je peux rembourser. Le fait de pouvoir moduler ces conditions de financement permet à l'entreprise d'avoir l'argent comme un avantage. Dans le système classique, notamment le système bancaire, c'est la banque qui dit comment elle veut que vous le remboursiez. Donc, des fois, le taux, la durée ne cadre pas avec vos problématiques d'entreprise. Entreprises qui passent sur les systèmes bancaires n'ont pas accès à un financement qui leur facilite la tâche en tant qu'entrepreneur. Alors qu'avec le système financier, la bourse, c'est elles qui vont structurer l'offre, qui vont dire on prend du financement pour 5 ans, on prend du financement pour 7 ans ou pour 10 ans.
Alors, monsieur Kwa, on va être concret, hein, justement. Vous avez parlé des trois catégories, deux catégories qui sont déjà effectives au niveau donc de la BRVM et puis la dernière qui est à venir. Alors, dans ces deux catégories, quelles sont les entreprises qu'on connaît?
Donc, déjà, ces entreprises sont classées en termes de secteur d'activité. Donc, je vais citer deux ou trois exemples par secteur d'activité. L'industrie, il y a l'entreprise Filtisac, l'entreprise Uniwax, l'entreprise Solibra, que je peux proposer comme exemple. Au niveau du secteur des services publics, il y a la CIU Sodici qui sont présentes. Au niveau de la banque, BCC, SGBCI, NCA Bank et Coop Bank sont à la BRVM. Au Burkina, par exemple, il s'agit de Coris Bank et BEA Mali sont présents. Au Mali, BEA Mali. Au Sénégal, BEA Sénégal. Au niveau du transport, le groupe Bolloré est présent à la BRVM. Au niveau agricole, les filiales du groupe SIFCA, donc SAPH, Sucrivoire, Palmsi, sont présentes à la BRVM. Le dernier secteur, le secteur de la distribution, prend en compte les pétroliers, les vendeurs de voitures, comme je les appelle, CFAO, Tractafric, sont là. On a d'autres, voilà, comme ça. Donc, voilà un peu pêle-mêle les entreprises qui sont à la BRVM. On n'a pas cité les 45 pour des raisons évidentes, mais on a cité ces cas-là pour que vous compreniez quand on parle d'investir à la BRVM. On ne parle pas d'entreprises abstraites. On ne parle pas de gens qui se sont créés avant-hier et qui veulent votre argent. Ce sont des entreprises établies qui tiennent des secteurs d'activité, qui sont leaders et qui aujourd'hui vous proposent d'avoir accès à une partie de leur capital.
Voilà, vous êtes situé à mes auditeurs justement sur l'importance de la BRVM. Voilà. Monsieur Kwao, merci infiniment de toutes ces informations.
Merci Monsieur Koumé.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.